Joseph Malègue, Augustin ou Le Maître est là, chapitre 6, Canticum Canticorum, deuxième partie, la visite et le bambin. Poursuivi par la prière et mille choses d'autrefois, Augustin ne se mit pas au lit immédiatement. Il n'habitait plus la petite chambre où toute son adolescence avait couché. Il occupait celle de son père, sur la même façade de la maison, et utilisait la table à écrire où celui-ci s'installait jadis. Banal mais large, les épreuves de sa deuxième édition d'Aristote s'y étalaient à leur aise. Il travaillait assez tard, à l'une de ces vieilles lampes dites à modérateur, très lentes à prendre flamme, mais fixes et douces, dont l'huile brûlait avec une couleur jaunie et une petite odeur qu'il aimait. Lorsqu'Augustin se souvenait de son père, il lui était, quoique d'une manière différente, presque aussi présent qu'au jour d'après la mort. Dans les premiers mois du deuil, certains détails du disparu faisaient irruption en lui avec la netteté de la présence, porteur des vrais contours de la vie, un peu plus jaune seulement. Des yeux clignés, ridés, besiclés, horriblement inexistants, fixaient les siens. Sa barbe grise, blondie de tabac, remuait. D'avance, l'oreille s'ajustait à sa voix. Les sens d'Augustin refusaient d'ajouter foi à la pensée raisonnable, préférant en croire de vieilles habitudes qu'il n'avait aucun moyen de convaincre de cette mort. Il se donnait l'ordre impérieux de penser sur le champ aux références bibliographiques de ses auteurs d'agrégation, et il lui semblait prendre à pleine main pour la redresser de force, une partie tordue et sanglante de son cœur. À cette époque, la vie était bien dure pour une femme de professeur mort avant sa retraite et chargée d'enfants. On avait mordu sur le capital. Des titres de rente 3% perpétuels, des obligations à l'eau du crédit foncier, toute valeur immobilière de petites gens étaient parties l'une après l'autre. Les tentacules de Jules avaient enserré un nouveau lot de terre. Augustin collabora selon son habitude par des travaux de vacances jusqu'à sa magnifique agrégation. Puis Christine sortit de Sèvres et l'étreinte se desserra quelque peu. Toutes ces choses déposaient sur les arêtes aiguës du souvenir d'impalpables et bienfaisantes petites vases. Il arrivait que, par les repères marqués sur l'échelle des anniversaires, sa pensée, redescendue à l'horreur des premiers jours, vit une forme raide et fraîche s'étendre horizontalement sur un fond de ténèbres. Mais il suffisait d'écarter doucement ses coups de lance trop vifs pour que la présence de son père lui fût rendue mieux que dans la matérialité du premier chagrin. Il l'apercevait, comme ce chagrin, prisonnier d'images trop précises, ne pouvait pas le lui montrer. Il le reconstituait sur un long espace de temps, à la fois dans son âge mûr et dans sa jeunesse. Il le devinait même à des moments qu'il n'avait pas connus. Et jusqu'en sa propre nature à lui, Augustin, malgré toutes leurs différences, grâce à certains gestes hérités, à telles nuances de pensée, à telle manière de prendre les questions qu'il lui devait. Retrouverait-il plus tard, dans l'autre monde, suivant la terminologie chrétienne, la personnalité de son père, ce que le vieux catéchisme appelait son âme? Il constatait en lui-même, confondu, inconnexe, sans qu'il eût le pouvoir de choisir, côte à côte avec les tendances mécanistes, d'autres pressentiments conservés à défaut de pensée nette, par l'attrait des plus hauts désirs, chassé de tout territoire historique positif et arpenté, fuyant toujours plus loin, vol d'oiseaux pour chasser, vers les régions réservées et inexorables, il gardait cependant une activité obstinée, leur envergure géante, un grand plumage blanc étalé sur le ciel. Dans la débâcle de ses croyances, par une sorte de contagion de positivisme, il avait bien cru dire adieu à ces questions-là pour jamais. Elles persistaient cependant, solidement crochetées à sa pensée. Il l'avait écrit, rien n'était fait dans la science de la vie tant qu'il restait à y intégrer la mort. Pour lui, personnellement, il eût accepté l'extinction des feux après la comédie, la destruction de l'épiphénomène, le coup de balai aux sanctions manquées et aux désirs faillis. Cet attrait des solutions matérialistes, même mal fondées, était à base de renoncement, d'impassibilité, de froide résignation stoïque, comme après un impossible amour. Qu'ici, impassibilité voulut dire qui a beaucoup pâti, qui pâtit encore et qui cache son jeu, peu importait. C'était son affaire, hors du domaine public. La genèse des idées et leurs valeurs sont deux. En ce qui le concernait, il acceptait le néant, mais non pas pour ceux qu'il aimait, non pour cette extension de son âme qui était les siens. Contre la mort déjà venue, contre une autre peut-être proche qu'il repoussait de toute sa force, le dos contre la porte qu'elle ouvrirait bien un jour, aucune impassibilité n'était possible. Croyance et désir ruisselaient ensemble de son cœur. Un matin, Christine entra brusquement, les bras nus, portant dans sa robe le tablier caoutchouté des lavages. « Monsieur et Madame Desgrais de Sablon font visite à maman. Elle est écrasée sous cet honneur. Viens lui aider. » Augustin se rappela que des bruits de sonnettes et de portes avaient quelque temps auparavant traversé les épreuves d'Aristote et les références de Rodier. En d'autres régions de lui-même, d'autres morceaux de banquise dégelèrent et partirent sur les eaux. La mort de son père, une sorte d'illogique rancune qu'il leur gardait de la coïncidence, le hasard des voyages et des absences avait singulièrement ralenti le rythme des rencontres entre les Desgrais et Augustin. Il n'avait fait qu'entrevoir à de rares reprises Madame Desgrais des Sablons. « Oui, continuait Christine, j'ai pu fuir presque tout de suite. Bébé m'a été très utile en cette circonstance. Je crois bien que c'est la première fois de ma vie. » Elle rit et remonta un bourrelet d'étoffe sur d'assez jolis avant-bras. Dans le froid salon inutilisé, dont sa mère venait d'interrompre le sommeil en ouvrant les persiennes, il l'aperçut, elle, dans son fauteuil, immobile en sa longue élégance, identique et toute nouvelle, à cause de bien des changements de détails, et aussi de ce lieu où elle ne s'était encore jamais montrée. Il la vit sereinement souriante, à quelque chose qui n'était exactement ni ce que ne lui disait Madame Mérédier, ni ce que bourdonnait l'importante présence masculine qui l'accompagnait, ni ce qu'elle regardait d'une fixité distraite, à travers la fenêtre et au-dessus des rideaux. Cet ensemble de conversations et d'occupations, elle le trouvait peut-être juste et adapté, peut-être l'inverse. Il était d'ailleurs indifférent qu'il fût ceci ou cela. Sa vertu se bornait à extraire de Madame Desgrais des Sablons un sourire de bienveillance universelle qu'elle servait sans variété à toutes les circonstances diverses dont pouvait se composer au gré des jours et de son mari, l'ennui le plus paisiblement accepté. Tout, indifféremment, pouvait être favorisé de ce sourire si général. Des meubles, des glaces de cheminée, la vieille figure de Madame Mérédier ou ses paroles. Elle devait le mettre, comme elle eut en d'autres circonstances, mis des chaussures de promenade, un costume de cheval ou une robe du soir. Elle ne redescendit de ses cimes lointaines, ne redevint individuellement terrestre qu'en voyant entrer Augustin. Elle lui demanda de ses nouvelles avec cette formule anglaise qui n'attend pas de réponse. « Comment allez-vous ? Et comme il y a longtemps ?» Augustin revit avec quelque chaleur, dans l'admiration, ce visage resté merveilleux. Que tant de hauteur mêlée à son charme limitait à l'ironique détachement sans lui laisser jamais atteindre rien qui approchât de la mélancolie. Un début de maturité s'y discernait déjà à quelque chose de moins ferme dans la chair, un plissé commençant autour des tempes et dans ses ondulations blondes des reflets argentés naissants, minces, linéaires, qu'elle ne dissimulait nullement et qui étaient une autre beauté. Elle lui marquait un intérêt qu'il ne voyait pas sans émotion. Il regretta de n'avoir pas à ses yeux les habitudes mondaines françaises qui lui eussent permis de lui baiser la main. Mais il fut sensible à ce moment même à une sorte d'influence et de volonté d'absorption émanant du fauteuil qui bornait à gauche Madame Méridier. Monsieur Desgrais des Sablons venait de se lever. Augustin vit se tendre vers lui les coutures visibles d'un gros gant de voiture couleur temps, pendant que voltait à ses narines un souvenir effluve de tabac en cigare, pointillé d'eau de Cologne et de cosmétiques très délicats. Il subit le choc mou d'une voix pesamment dominatrice, qui lui sembla l'imitation d'une autre voix parente, rendant celle-ci le son du maître, mais caché, sec et juste. La voix actuelle se bornait à une approximation superficielle faite d'un matériau inférieur et moins fin. Des touches savoureusement provinciales s'y maintenaient, préservées exprès, collant sur cet ensemble de vie parisienne comme sur le miroir d'un vernis gras. Monsieur Desgrais des Sablons parlait seul dans un désert dont sa voix variée et considérable occupait provisoirement tout l'espace. Il donnait l'impression de ne pas consentir volontiers à en céder une parcelle pendant qu'il parlait. Madame Méridier avait senti pleinement et d'emblée tout le poids de cette visite. Elle introduisait dans la pièce comme des coups de vent venus de pays étrangers, apportés par Monsieur Desgrais des Sablons, véhiculés par lui, devant lesquels l'atmosphère de son groupe à elle, soudain personnifiée et prenant chair, en profitait pour se retirer à reculons, toute pénétrée de respect. Au cours de cette retraite, Madame Méridier prononçait des « oui, monsieur, merci, monsieur », par lesquels elle continuait de manifester qu'elle existait, quoiqu'il n'y eût rien de quoi elle dût spécialement remercier, les intentions bienveillantes marquées par cette visite, et que Monsieur Desgrais des Sablons laissait descendre sur elle par grâce pure, comme la bonté de Dieu dans le catéchisme, étant vides de contenu et valant par leur forme seule. Mais Madame Méridier, en sa simplicité, semblait les serrer contre son cœur, de peur d'en rien laisser perdre. Monsieur Desgrais des Sablons, pour une certaine lenteur et hésitation de sa voix, témoignait de quelque étonnement devant tant d'humilité. Il paraissait désirer plus de relief, peut-être pour que ses favorables dispositions en reçussent un prix accru, pareil à la pluie de Jupiter qui ne tombe que sur les hauts lieux, ou parce que les précautions que les principes collectifs de conduite lui avaient prescrites pour mettre en toutes circonstances sa caste hors d'atteinte en devenaient inutiles et presque ridicules, ressemblaient à des efforts musculaires démentis par le vide inattendu d'un récipient qu'on croyait plein. Aussi, dès son arrivée, Augustin eut à se faire jour à travers une insistance filante, appuyée et pâteuse, dont M. Desgrais des Sablons sollicitait Mme Méridier, un peu comme un chat tapote pour la faire mouvoir, une souris terrifiée. Tel un maître, entre deux mains plates, fixant sur son devoir la tête d'un élève inattentif, le sentiment des convenances tourna brusquement Augustin vers le sens clair des sons qu'émettait l'homme. Il y discerna les « très heureux » de « des « Madame Desgrais sera enchantée » de « des « oui, oui, trop bon souvenir » des « me rappelle avec trop de plaisir » et autres pareilles formules portées à la surface de la voix grasse, bénéficiant en chemin faisant de toutes ses intentions et de toutes ses moires. Ces « traits » émis à bouche large, sur des « haies » à l'extrême limite de l'ouverture, ces « oui, oui » prononcés « ouais, ouais », ces nasales en notes de gond sous point d'orgue, Augustin comprenait qu'ils étaient simples phénomènes de vie collective et caractéristiques de groupe, que M. Desgrais des Sablons n'était pas libre de ne pas les produire, qu'il lui était aussi imposé que le fameux parfum léger, la parenthèse parfaite des moustaches roux-gris et les gants de voiture. Augustin se demandait s'il y avait vraiment autre chose lorsqu'il découvrit la valeur de deux solennels yeux bleus froids, ouverts au centre des directions diverses d'où se dispersaient de petites rides. Derrière leurs rideaux de paupières, de l'air dont on se redresse pour déguster une liqueur, il se retournait soudain vers quelque point central d'une tête renversée contre le dossier du fauteuil. Il semblait chargé d'aller y contrôler les paroles prononcées par les lèvres, de constater leur conformité avec certains critères généraux d'éducation et de tenue qui eussent résidé dans l'encéphale. Après quoi, ramené de rechef sur Augustin au retour de ce voyage intérieur, sûr d'eux-mêmes cette fois et plein d'une objectivité officielle, il lui garantissait définitivement cette conformité. À ce moment, les deux mains du maître imaginaire ayant de nouveau immobilisé l'attention d'Augustin, il s'aperçut qu'on lui suggérait de séjourner un certain temps sur des pelouses parcourues d'allées sablées, piquées de massifs fleuris, où des gens en tout semblables à M. Desgrais des Sablons passaient des minutes fortunées. Il arrivait à Augustin de ne pouvoir se défaire de cette manière de couper son esprit en deux parts. L'une produisant les réponses à peu près exigées par les lieux et les circonstances, tandis que l'autre prenait à regarder son interlocuteur ce plaisir de prévision et d'accompagnement né de l'exécution sûre et infaillible d'un système de gestes attendus, marqué même ça et là, pour plus de perfection, par l'imprévisibilité de la vie. Le caractère qui frappa ensuite Augustin dans sa reconstitution de M. Desgrais des Sablons fut un net relevé d'étoffe grise sur la chaussette couleur bruyère. Après avoir épousé le relief de sa grosse cheville, elle plongeait en une chaussure jaune, conservant, à travers des traces de service et de crème à chaussures, l'entière précision de sa coupe première. Le tout constituait un pied qui, parce que la jambe était croisée très haut et que le propriétaire de ce pied étalé dans le fauteuil occupait beaucoup de place en longueur, se tendait vers Augustin comme une main. Sorti du gant de voiture à une époque qu'Augustin ne pouvait préciser, faisant parfois avec son ancienne enveloppe des gestes où l'on retrouvait, spatiale et muette, les inflexions mêmes de la voix, la véritable main, tachetée, couverte de poils blonds, tombait mollement d'un immobile bras gauche calquant le bras du fauteuil et avait l'air de s'écouler. L'échange de paroles continuait entre la moitié d'Augustin qui s'en tirait très honorablement et M. Desgrais des Sablons tout entier. Le sujet, après avoir passé sur des visions de château, semblait revenu au thème primitif de plaisir actuel associé à un remémoré de plaisirs anciens perçus en la compagnie du père d'Augustin. « Monsieur, votre père, vraiment grand service, bien aimable de nous rendre, esprit dans des idées excellentes, père très ressenti, vraiment, avant tous. » À ce moment de la conversation, M. Desgrais des Sablons, enfin recomposé au cours d'explorations de durées diverses, minutieuses, quoique conduites sans méthode, émergea enfin de tout le relief dont il était susceptible, et Augustin mit à lui parler une attention entière et rajeunie. C'était le moment où l'édifice impeccable et faiblement parfumé des cheveux se penchait en arrière d'un angle très petit mais toutefois perceptible, tandis qu'un sourire non plus seulement bienveillant, mais empreint d'un sentiment d'égalité avec Augustin, et en exprimant une surprise ravie, soulevait sur les dents la lèvre supérieure et par elle la parenthèse des poils. « Mais vous, cher monsieur, disait M. Desgrais des Sablons, vous occupez une chaire à nos facultés? Ce serait un couronnement de carrière pour bien d'autres. C'est un début pour vous. » Et il ajoutait « Parfait, parfait !» Il prononçait « Parfait !» Parfait. Donnant ainsi à la dernière syllabe ce ton de l'attente, cette surélévation des phrases interminées qui signifiait « Mais quoi donc ? Vous avez fait une dictée absolument sans faute. Que n'allez-vous accomplir maintenant ?» Ou encore « Mais allez donc, rien ne saurait me surprendre de vous. » Ou aussi, qui semblait donner la voie libre à quelques jeunes athlètes de la classe des espoirs, dont la performance eût été précisément suspendue par la crainte respectueuse de surprendre M. Desgrais des Sablons. Et, sur ce, tombèrent les mots pour lesquels ils étaient là. Ils tombèrent sans nulle transition qu'un court et banal adverbe, toute transition étant pour M. Desgrais des Sablons un problème non de rédaction mais de convenance, et celle-ci, consistant en ce que M. Desgrais des Sablons avait déjà payé, entre guillemets, et d'avance, une visite d'un quart d'heure. Précisément, dit-il, ma nièce Préfaille, la fille de mon beau-frère, d'un ton éteint, l'officier de marine tué devant Dixmude, passe un examen fin juin ou dans les tout premiers jours de juillet. J'aurai même l'indiscrétion de la recommander à votre bienveillance. Et il termina par un large rire sans gaieté. Mademoiselle de Préfaille passe quel examen, monsieur ? En dépit d'un « hon » initial, le renseignement menaçait de ne pas sortir aisément de la bouche grande ouverte, lorsque, du fauteuil qui bornait Madame Méridier sur la droite, une réponse vint sur les ailes d'une voix curieusement maîtresse d'elle-même, assurée et charmante, qu'Augustin ne s'était jamais lassé d'attendre et d'admirer. « C'est une licence S-lettres, partie philosophie, tout à fait votre spécialité, monsieur. » Et le latin l'inquiète fort. Comme si l'obstruction du gosier de M. Desgrais des Sablons venait de céder sous un coup de bistouri, il reprit avec vélocité, juste à la fin de l'explication technique, « Oui, cette petite s'est passionnée pour ça. Oh, elle a tout de même eu la bonne idée de ne pas nous en occuper trop. » La saison mondaine ne l'intéressait pas. « Enfin, ce sont les nouveaux goûts, » ajouta-t-il, tourné vers Madame Méridier, comme en un regret confidentiel qu'elle se trouvait sans doute plus particulièrement adaptée à comprendre. L'air du salon avait changé, essentiellement composé jusqu'alors des effluves issues de M. Desgrais des Sablons, fait d'un rare mélange individuel avec valeur de groupe, de ses tournures de phrases, de sa voix, de son cosmétique et du soleil de ses pelouses, il admit des souvenirs d'un temps plus ancien où celle qui s'était passionnée pour ça n'était encore qu'une enfant aux profonds yeux purs. Ceux de M. Desgrais des Sablons, paterne, attendri, condescendant, allaient et venaient d'Augustin à sa mère. Le geste qui accompagnait « passionné pour ça » signifiait « il faut savoir céder aux enfants ». Dans le morceau sur la saison mondaine et les goûts nouveaux, qu'il paraissait se plaindre et s'excuser à la fois de ne pas avoir, il semblait qu'une similitude d'âge et de cœur réunit dans le groupe des goûts anciens M. Desgrais des Sablons et Mme Méridier, regardant avec de bénévolents hochements de tête le groupe des goûts nouveaux personnifié par Augustin et Mademoiselle de Préfaille. « Madame, dit Augustin, laissant précisément tomber son époux, voulez-vous me permettre une question ? Où et sur quel programme Mademoiselle de Préfaille s'est-elle préparée ? Et où passe-t-elle ? Mais à Lyon ? Elle s'est préparée très simplement. De novembre à janvier, où nous sommes à Lyon, elle allait aux facultés catholiques qui sont à 10 minutes d'automobile. « Vous l'avez, dit M. Desgrais, très souvent accompagné. Jamais vous n'avez convenu que c'était 20 minutes au moins. » Augustin comprit qu'il devait aimer les rectifications dures et faciles et faire montre de précision à peu de frais. Le même ressentiment de la remarque leur vint à tous deux, son interlocutrice et lui. « Le temps, dit Augustin, à ses raisons morales de s'étirer et de se contracter. Les chronomètres n'en rendent pas compte. En hiver, dit Madame Desgrais des Sablons, d'une lente voix inassistante, le froid le contracte certainement. En revanche, Madame, de mars à juin, vous avez dû noter des dimensions inverses à vos voyages aux facultés. Je vous dirai que je n'en saurai jamais rien, parce que nous sommes alors à Paris, où notre installation est près de celle de mon beau-frère. C'est à partir d'elle que, pendant l'été, j'aurais dû compter le temps. De brèves petites notes de son léger rire de cristal tintèrent dans l'air du salon. Puis elle continua. À Paris, ma nièce a travaillé avec Monseigneur Herzog, le professeur de l'Institut catholique. Est-ce que vous le connaissez? Il doit avoir plus de 70 ans. Il était l'abbé Herzog et aumônier de notre lycée lorsque je l'ai connu. Il a été gravement malade. Je l'ai beaucoup aimé. Comme ce souvenir trop personnel amenait un temps de silence, il ajouta « Il a dû être un excellent professeur pour mademoiselle de Préfailles. » Puis, revenant au vieil aumônier, « Doux, ascétique, presque immatériel. »« C'est bien lui, » dit Madame Desgrais des Sablons. Sensible aux valeurs morales comme à une forme supérieure du décor de la vie, elle continua « Il est tout à fait exquis. » Puis, se souvenant soudain, « Qui donc nous a dit qu'il se présentait à une académie ?»« Il joue fort bien aux échecs, » dit Monsieur Desgrais des Sablons, en parfaite innocence, sans se rendre compte que sa phrase se liait malgré lui à la précédente. Mais cette juxtaposition fit rire Madame Desgrais des Sablons. « Non, 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 non !» protesta tout à coup la clairvoyance tardive de son époux, tandis que son sourire bourbonien s'attribuait ainsi la paternité d'un mot qu'il n'avait pas voulu. Ce sens est fort loin de ma pensée. Mais il avait conscience qu'il venait de s'exprimer, comme toujours, avec un bonheur spontané, et il montrait qu'il ne considérait pas comme impossible une familiarité avec les questions d'élection à l'Institut, lorsque quelques circonstances de religion ou de société les haussaient à un degré de visibilité suffisant. « Monsieur, fit Madame Desgrais des Sablons, voulez-vous me laisser espérer que vous serez assez aimable pour nous amener au Sablon, Madame votre mère et votre sœur, pour un après-midi ou pour un déjeuner cet été, où nous y serons souvent ?» L'acuité d'Augustin, cependant fort grande, fut insuffisante à lui permettre de lire en Madame Desgrais des Sablons. L'évident intérêt qu'elle lui portait ne s'étendait qu'avec difficulté à sa mère et à sa sœur, quoiqu'elle fût préparée au sacrifice de les recevoir. Mais elle vit qu'elle ne courait aucun risque. Madame Méridier et même Christine, qui eussent malaisément éludé le déjeuner, s'ils s'étaient présentés datés, précis, nets de tout contexte, absorbable et glissant comme une pilule, susceptible seulement d'un oui ou d'un non, que leur timidité rendait pour des raisons différentes presque également impossible, reculerait devant une invitation dont elle devait elle-même fixer la date, et qu'un artifice de rédaction mondaine associait à un après-midi entier, interminable et déclassé. Et en effet, Augustin répondit pour elle « « Je suis très touchée, madame, mais ma mère ne sort guère depuis longtemps. Ma sœur est très prise par son petit garçon. J'ai moi-même bien peu de temps. » La dernière affirmation était d'une inexactitude morale qui lui serrait le cœur, à cause de sa crainte d'être pris au mot. Au reste, toute cette bruissante broussaille d'excuses fut balayée par un geste aimable et souverain, présentant à la consommation d'Augustin un gâteau fait de sincérité et de simulation, pétris ensemble et indiscernables. Il m'eût été agréable d'avoir ces deux dames un après-midi, et bien facile de les faire prendre, je vous assure. Madame Desgrais des Sablons comptait qu'Augustin ne scruterait pas de trop près ses conditionnels passés. Mais vous, monsieur, dont tout le temps ne se passe pas dans les livres, nous en avons au Sablon toute une bibliothèque. Vous viendrez les lire sous des ombrages que nous trouvons le moyen de conserver à peu près verts. Grâce à l'heure d'été, nous dînons en des soirs ravissants. Vous vous laisserez tenter, et je vous serai d'autant plus reconnaissante que vous tarderez moins. » Elle se leva d'un grand mouvement harmonieux, dont Augustin subit la complexe grâce, ainsi que jadis, mais sans l'ancien trouble. La souple et comme inconsistante étoffe de sa jaquette gris fer, ayant épousé austèrement les formes de son buste, se permettait sur l'évasement des hanches deux plis d'une lassitude savante ajustée et longue. Enfin, toutes avances faites, tout sourire achevé et toute chose réglée, revenant désormais pour tout le monde au sentiment tranquille de sa situation sociale et de sa très vaste fortune, la grande dame rendit à son visage son expression et sa position naturelle qui était redressée, avec une certaine nuance permanente d'ironie, dans la certitude de soi, la hauteur et la beauté. Cependant, M. Desgrais des Sablons ayant supplié Mme Méridier de ne pas prendre la peine de l'accompagner, s'était, avec une lenteur pompeuse, incliné au niveau de ses mains. Ils descendirent tous les trois le large et doux escalier de province. Comme Mme Desgrais des Sablons paraissait s'attarder auprès d'Augustin, son époux prit le parti de marcher le premier en profil perdu. Il les devança à la porte. Là, il partagea ses regards entre les deux causeurs qui s'éternisaient et un grand cheval bai brun dont un cocher à livrée grise contenait le piaffant ennui. Pour certains courts trajets autour des Sablons, il avait le caprice de conserver l'usage de la voiture à cheval, car il conduisait bien. Il captait des bribes de conversation. Les projets de M. Desgrais le retiendront sans doute ici de juin à novembre. Et aussi, juin est le plus beau moment des prairies, et nous avons bien de la chance de vous y rencontrer. Augustin donnait des éclaircissements. Mes derniers cours finissent au début de juin. Les premiers examens commencent dès la fin de ce mois. Tout l'intervalle, je le passe ici. » La conversation qui paraissait finie rebondit. « Il faut bien du talent, disait-elle, pour écrire sur Oxford un livre qui ne le défigure pas. » Ce peuple est le seul qui sache encore bâtir en gothique. Peut-être vous rappelez-vous, madame, le dessin du beffroi que Baudelaire destinait à Christ Church? M. Desgrais des Sablons semblait piaffé comme le cheval. Remontant le perron, Augustin entendit « Ma chère Élisabeth, ce n'est pas seulement en automobile que vous ignorez comment passe le temps. » « Veux-tu aller déjeuner au Sablon ?» demanda Augustin à Christine. Celle-ci se mit à rire. « J'espère que tu nous as vigoureusement excusés, bébé et moi. » Bébé venait d'être lavé, magnifique, tout rose, d'un ingénu éclat de chair neuve qu'il ignorait avec la plus grande modestie. Il battait des bras et des jambes, couché sur le dos, haletant, coupant de « des souffles rapides. « Comme vous avez eu raison, oncle, d'attendre pour venir nous voir la fin de votre belle visite. Dites, monsieur, nous aurions eu des choses bien sales à montrer à notre oncle. » Et, cessant de parler au nom du petit garçon, reprenant le ton normal d'un récit joyeux, « Seigneur, me suis-je dit en défaisant les langes, qu'est-ce que nous allons trouver là-dessous ?» Puis, consolatrice, « mais non, ce n'était pas si sale, c'était de bien belles selles, des selles que nous avons faites de notre mieux. » « Gardez-nous un instant, oncle, pendant que maman ira chercher notre biberon. » Penché sur le bébé, Augustin sentit de faibles griffes fouiller ses cheveux. Le biberon arriva. « Bébé, lâcha les cheveux, devint frénétique, projeta de petits bras vers le repas, l'amenant à lui à travers l'air et toutes les difficultés de la pesanteur par la seule intensité de ses forces morales. Mais dès qu'il eut bu, son expression changea. Il regarda la chambre et les visages familiers qui l'épiaient comme autant d'objets n'ayant plus rien à lui offrir. Il eut l'air repu, désabusé, revenu de tout, désenchanté de la vie. Ses traits exprimèrent la plénitude d'un contentement blasé, la satisfaction normale mais trop connue de ce qu'un flux tiède, épais, à touche de velours et goût de lait, fit descendre quelque part dans les cantons de la petite conscience particulièrement sensible à la tiédeur et à la plénitude. L'assurance de la perfection, du correct ajustement de toutes choses, et la monotonie née du bonheur. Un peu de bon lait ruisselait et bavait au coin des petites lèvres. Cet état d'âme dura jusqu'à l'arrivée d'un bruit digestif inconvenant et ingénu. « Ah !» dit Christine, « c'est le second moment. » L'innocente vie présentait ainsi les temps de la nutrition et les forces morales emmêlés l'un à l'autre sur le même plat enfantin. Tout redevient bien, désormais. Tout fut dans l'ordre. Le désenchantement et la répression, doublures l'un de l'autre, se dispersèrent et fondirent dans un univers optimiste tout entier nourricier. Le bébé essaya de prendre un air fin et même matois, comme si têter jusqu'à plus soif était une bonne farce qu'il avait faite, mais qu'il ne put la soutenir, faute de force, parce qu'il était trop petit. Augustin ne cessait d'admirer l'inimaginable simplicité de cette petite âme active et sa fraîcheur prodigieuse. Son corps, la fenêtre, ses pieds, un linge étendu, blanc et irrégulier, tout était indifféremment neuf, sans usage antérieur, né sans doute en même temps que lui dans l'été de l'année précédente. Tout pouvait parler, se taire, répondre. Les petites jambes, dressées vers le plafond, s'incurvaient vers la tête. Les petons retrouvaient les menottes pour une exploration passionnante qu'interrompit net la vue d'un crayon rouge sortant de la poche de l'oncle. L'étonnant crayon rouge, le riche, le complexe, le vivant, le silencieux crayon. Bébé prend des expressions diverses devant le crayon. Stupeur désarmée, air ambigu, sourcils froncés, ou du moins effort pour le faire, vain et mal marqué sur cette petite figure lisse. Un doigt minuscule et boudiné touche l'air quelque part autour du crayon. Ce n'est qu'un essai. On recommencera. Un coup long, un coup court, et le troisième droit sur le crayon. Ça y est, c'est dur, c'est rond, froid. Étonnant crayon. Oncle, dit sa maman, donnez-nous nos effets, notre petit lainage qui pend dans le soleil, voyez-vous, là, contre la fenêtre. Les hommes ne trouvent jamais rien. Pendant qu'elle agrippe le lainage du bras qui tient déjà l'enfant, l'autre dessine les gestes classiques de la chanson des bébés. Ainsi font, font, font les petites marionnettes. Mais c'est de l'ingénuité pour adultes, de la naïveté pour adultes, de celle que les adultes croient qui conviennent aux petits-enfants. Parlez-moi plutôt du crayon. Sa vertu dépasse de beaucoup ce que vous croyez qu'elle est. Il vient d'un merveilleux pays. Il en a rapporté quelque chose qui coule le long de lui. Il est en vie, bien entendu. Peut-être qu'en le touchant longtemps et comme il faut, il finira par révéler ce qu'il tait. Cette communion avec la splendeur du crayon rouge dépasse ce qu'un bébé peut supporter de recueillement. Elle finit par éclater en un tremblement extatique des mains, des pieds, de tout. Tout à coup, prenant son temps, donnant en termes décisifs ses ordres à l'univers, il émet un énorme « explosif. Satisfaction totale. Ce « exprime un système d'idées limpides, clos. Tout s'y trouve. Tout est dit. Tous les problèmes du crayon sont fixés. Bébé est libéré. Aristote a parfaitement compris cela. Se sentant désormais en un monde sans secret, dans des bras sûrs et doux, Bébé fait à celle qui le portait un de ces sourires de dépendance innocente et d'abandon total qui sont pour les adultes le plus fort appel de la première enfance et sa plus prenante douceur. « Je suis tout petit. Je n'ai qu'à étendre en résolution mes membres non utilisés encore. C'est mon appât. » Augustin retrouvait le mot éternel « Si vous n'êtes comme l'un de ces petits. » Il repose maintenant dans sa laine écumeuse, ni assis ni allongé. À sa place, un adulte aurait de lourds os à étendre, un système nerveux à apaiser, mais non pas lui. Tout est prêt pour des jeux surprenants. Il pousse l'air entre ses gencives roses et nues comme une petite locomotive. Il revient au « he, he », les varides « grrr, grrr » et lâche pour finir ce riche « he » interminable, beau vocable, plein de sens et de suc, expression de grand artiste dont les moyens ont égalé le rêve. Christine le soulevait très haut, le balançait, le tripotait, posait ses deux petits pieds nus sur ses joues à elle et sur ses lèvres, improvisant et chantonnant « Dans cette maison, mesdames, messieurs, nous avons un petit garçon, et il sait dire « grrr », il sait dire « peu », et tous les mots de sa leçon, dans cette maison. » Elle s'inclinait à droite pour mesdames, à gauche pour messieurs, balançant Bébé dans ses bras. Après quoi, elle le serra contre sa poitrine, en une molle douceur ardente, craignant de trop appuyer. Elle jeta par-dessus son épaule et sans regarder Augustin, « Oncle, vous ne savez pas ? Voici ce que vous dit Bébé. N'allez pas faire vos cours de philosophie dans votre faculté, oncle. C'est Bébé qui va s'en charger. Bébé saura dire ce qu'il faut. Vous entendez, oncle ? Et aussi la malicieuse, « Oncle, n'allez pas au sablon pour y déjeuner avec les belles dames. » C'est Bébé qu'on a invité. On n'a pas besoin de vous, oncle. Bébé fera les compliments qu'il faut. » Elle s'assit enfin dans le grand fauteuil qu'elles avaient, sa mère et elle, introduit dans la salle à manger. Il lui servait quand elle voulait étaler Bébé sur ses genoux. Elle touchait du bout d'un doigt chatouilleur la petite poitrine, faisant « non, non, non » avec la tête, agitant des versiculés grelots. « Il bambino, piccolino, dorme et sogna nel lettino. » À chaque rime claquaient les baisers. Elle embrassait le nez, le front, la poitrine, le ventre. « Ma un bacchino, sul musino, stocca e ride il birichino. » Bébé riait en effet sa joie de vivre. De toute sa petite bouche où perçaient les dents et le timbre de son rire rendait les sons de la plus grêle enfance. Christine se pencha une fois de plus sur la transparente chair en une ivresse contenue et la même douceur dont elle l'avait serrée sur sa poitrine. On trouve sous les lèvres une petite rose et c'est une joue. On trouve sous les lèvres une petite joue et c'est une rose. Augustin la quitta sur ce bruit de baisers.